Radio Okapi.
Madame, monsieur, bonjour. À la une, l'intensification des combats entre AFC M23 et Wazalendo, alliés à l'armée congolaise dont Massissi est calé, avec une concentration au village de Kasseni. Les rebelles auraient lancé une contre-offensive après la reconquête de plusieurs positions par les forces gouvernementales. Les activités sont paralysées au sein du ressort de la cour d'appel de Litouri depuis lundi. Les avocats ont suspendu leurs prestations sur toute l'étendue de la province et dénoncent l'agression de leurs collègues par un magistrat en plein exercice de ses fonctions à Mambasa. Ils exigent des sanctions. Notre invité, Madame Karine Onyemba, directrice générale de la NAT, l'Agence nationale d'aménagement du territoire. Elle nous parle du projet pilote que l'ambassade du Royaume-Uni veut mener avec les institutions congolaises pour l'assainissement de la ville de Kinshasa notamment. C'est dans le cadre du programme GESIP. Bienvenue à cette édition du journal. Nous commençons au Nord Kivu. Des combats opposant le mouvement rebelle AFC M23 aux coalitions Wazalendo alliées à l'armée congolaise continuent de s'intensifier dans les territoires de Massissi et de Kalé. Selon plusieurs sources locales, les affrontements de ce mercredi se concentrent dans le village de Kasseni, groupement Kibabi 1er, ainsi qu'à Mahanga, groupement Nyamaboko 1er. Des rebelles auraient lancé une contre-offensive après la reconquête de plusieurs positions par les forces gouvernementales. Autre précision avec Élisée Tchikouta.
Depuis tôt ce mercredi, de fortes détonations d'armes lourdes et légères sont signalées à Mahanga, dans la localité de Busiki. Mardi soir déjà, la coalition de Wazalendo alliés FARDC avait reconquis le village de Kazinga Ndete. Nos sources affirment que les miliciens tentent désormais de reprendre l'ensemble de cette entité afin de poursuivre leur progression vers Massissi Centre. Parallèlement, d'autres sources signalent une contre-attaque de l'AFC M23 contre les Wazalendo à Kasseni en groupement Kibabi 1er. L'objectif serait notamment de bloquer l'avancée des forces pro-gouvernementales en direction de la cité minière de Rubaya qui demeure sous leur contrôle. Ces affrontements, qui marquent ce mercredi leur 10e jour consécutif, aggravent la crise humanitaire dans la région. La majorité des habitants de Kasinga, Ndete, Shungi, Kaniro et environ avaient déjà fui leur village. Depuis ce matin, ce sont les habitants et plusieurs éleveurs de Mahanga qui quittent à leur tour la zone par crainte de combat. À Rubaya, la situation reste extrêmement tendue depuis qu'une position rebelle a été ciblée mardi aux environs de 3h du matin par une frappe aérienne des FARDC. Là aussi, certains habitants ont fui, redoutant d'éventuelles représailles, indiquent nos sources.
Nous sommes toujours au Nord Kivu. Les dernières heures du forum provincial consacré à la problématique des ADF se jouent ce mercredi à Beni, chef-lieu provisoire de la province, ouvert lundi à l'initiative du gouverneur militaire, le général Évariste Kakule-Somo. Ce cadre de réflexion de 3 jours a réuni autorités civiles et militaires, la MONUSCO, la société civile, des femmes, des jeunes et des partenaires avaient pour ambition de repenser la lutte contre ce groupe armé actif au Nord Kivu et en Ituri. Martial Papimukeba, vous êtes en direct de l'espace Congo Solution dans la commune de Rwenzori à Beni où se tient ce forum. Va-t-on vers une stratégie réellement concertée contre les ADF?
Oui, clairement. Depuis l'ouverture du forum lundi, une recommandation majeure se dégage. La nécessité d'une approche globale et inclusive. L'affiliation des ADF à l'État islamique rend désormais cette lutte plus complexe en raison de sa dimension transnationale, idéologique et des soutiens extérieurs qu'elle implique. La société civile et les femmes ont insisté sur la prise en compte de la dimension communautaire en associant davantage les populations locales aux stratégies de neutralisation des ADF. De leur côté, les FARDC ont plaidé pour des actions multidimensionnelles, tandis que la force de la MONUSCO a mis en avant l'importance du partage d'informations par les civils pour renforcer l'efficacité des opérations.
Mais avant la cérémonie de clôture, quelles sont les étapes prévues ce mercredi?
Il faut rappeler que les conclusions de ces forums sont très attendues, d'autant plus qu'il s'agit d'une première à l'échelle provinciale et nationale sur la problématique des ADF. Les participants espèrent des recommandations concrètes, loin des discours déjà entendus. La journée est marquée par les derniers travaux en panel, suivis des restitutions en plénière, en fait de consolider les propositions. Un communiqué final sera ensuite soumis à l'adoption de l'Assemblée avant la clôture officielle prévue aux environs de 16h, heure locale, par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara.
Merci Martial Papimukeba. Je rappelle que vous intervenez en direct de l'espace Congo Solutions à Beni, au Nord Kivu. S'achève ce mercredi le forum provincial sur la problématique des ADF. En marge de ce forum provincial de paix consacré à la problématique des ADF, justement, le secrétaire général académique de l'Université des Martyrs du Congo, UNIM RDC, lance un vibrant appel à la solidarité. Dans une déclaration rendue publique hier, le professeur Louis Akilimali se dit optimiste quant à la restauration de la paix dans la province, alors que les massacres perpétrés par les rebelles ougandais ADF continuent de frapper le Grand Nord. Plusieurs entités du Sud restent, elles, sous occupation de la rébellion de l'AFC M23. Cet expert en paix et en gestion des conflits estime que la mobilisation doit se concentrer non seulement sur la stabilisation de la province, mais aussi sur l'assistance aux survivants des violences. Les propos du professeur Louis Akilimali sont recueillis ici par Bernard Denyangui.
Le massacre persistant des ADF, plusieurs orphelins, victimes prises en charge par l'Université des Martyrs du Congo depuis 2023. Depuis la prise de la ville de Goma par les rebelles, les rêves sont brisés. Le Fonarev pensait intervenir une équipe mixte diligentée en 2024 pour identifier de toutes ces victimes au total des 156 victimes, dont 151 ici les ADF et 105 des M23 appellent à l'aide. Mais l'espoir est toujours grand. La société civile, les leaders communautaires, les autorités civiles et militaires, chacun a un rôle à jouer, transformant ces conflits en opportunités pour un avenir meilleur, pour une paix durable. Si nous travaillons ensemble, si nous sommes solidaires, nos enfants, notre espoir mérite un avenir.
La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire figurent parmi les sujets qui seront abordés aujourd'hui mercredi à Paris lors de la rencontre entre le président français Emmanuel Macron et son homologue congolais Félix Tshisekedi. C'est la porte-parole du chef de l'État Atina Salama qui l'a annoncé à Radio Kapi. Le précédent entretien entre les deux dirigeants remonte au 23 janvier dernier. Les activités sont paralysées au sein du ressort de la cour d'appel de l'Ituri. Depuis lundi, les avocats ont décidé de suspendre leurs prestations sur toute l'étendue de la province. À l'origine de ce mouvement, un incident survenu la semaine dernière à Mambasa, où un avocat aurait été agressé par un magistrat en plein exercice de ses fonctions. Le conseil de l'ordre des avocats de l'Ituri dénonce un acte qui, selon lui, déshonore la profession. Il exige des sanctions à l'encontre de l'auteur présumé. Les premières conséquences de cette décision se font déjà sentir sur le terrain. Jean-Claude Lequidi.
Tout serait parti d'une altercation jeudi dernier entre un magistrat et un avocat. Ce dernier sollicitait une audience dans un dossier impliquant son client. Après avoir entendu toute la journée sans être reçu, il aurait décidé de saisir le supérieur hiérarchique du magistrat. Informé, ce dernier aurait interpellé son collaborateur. Mécontent de remontrances reçues, le magistrat aurait alors agressé l'avocat, lui assémant des coups et déchirant sa toge. Pour les barreaux de l'Ituri, cet acte constitue une atteinte grave à la dignité et à l'honneur de la profession. Maître Joseph Keta, bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Ituri.
On estime que la dignité ou l'honneur du corps doit être préservé. Et donc, si on a pris cette décision, c'est pour que l'audience de flagrance puisse se tenir. Et dans ce cas-là, le ministère public doit saisir la juridiction concernée pour qu'il y ait cette audience de flagrance.
Sur le terrain, les conséquences de cette grève sont déjà visibles. À Aro Centre, par exemple, où se tiennent des audiences foraines de la Cour militaire de l'Ituri avec l'appui de la MONUSCO, les avocats ont déserté les salles d'audience, laissant leurs clients entre les mains des défenseurs judiciaires. En attendant une éventuelle réaction des autorités judiciaires, cette paralysie risque de pénaliser de nombreux justiciables à travers la province. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Affaire de viol collectif d'une jeune fille à Kolwezi dans la province du Lualaba, le tribunal des grandes instances de Kolwezi a condamné lundi à la peine de mort 9 des 10 prévenus pour association des malfaiteurs. L'un des prévenus étant un mineur, le tribunal ne l'a pas jugé. C'est à l'issue d'un procès en flagrance qui s'est tenu sur place à Kolwezi. Le point avec Paula Munanga.
9 prévenus sont condamnés chacun à la peine de mort pour association de malfaiteurs et 20 ans de servitude pénale principale pour viol. Ils sont aussi condamnés au paiement d'une amende d'1 million de francs congolais, payable dans les délais légaux, à défaut subir 40 jours de servitude pénale subsidiaire. En outre, le tribunal les condamne à payer à la victime à titre de dommages et intérêts la somme équivalente en francs congolais de 20 000 $ américains pour tout préjudice subi. Précisons que le tribunal de grande instance de Kolwezi les condamne à la plus forte peine qui est la peine de mort. Dans ces réquisitions, le ministère public a dit recevable et fondé les moyens de l'incompétence personnelle soulevée par les prévenus Zéphirin Ngoy Kalenga et s'est déclaré incompétent à son égard en vue de sa minorité d'âge. Pour rappel, en date du 28 janvier dernier, une jeune fille a été violée au quartier Golf Eastem par des jeunes hommes. La scène a été filmée et quelques jours plus tard, la vidéo a été partagée plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
En situation de réfugiés congolais au Burundi, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés propose aux réfugiés congolais l'amélioration des conditions sécuritaires et humanitaires avant le retour dans leur zone de retour. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le responsable du HCR au Burundi. Elle souligne également que la RDC, le Burundi et le HCR doivent se concerter avant cette opération. Le propos de Brigitte Mukanga, recueilli par Jean Kassami.
Concernant les réfugiés congolais qui sont ici au Burundi, le principe c'est qu'ils sont venus de suite d'une situation dans leur zone d'origine et tout rapatriement est généralement conditionné à l'amélioration de la situation dans les zones d'origine. Et donc avec cette réouverture de frontières, nous allons travailler bien sûr avec les autorités des deux pays, le Burundi et le Congo, plus les réfugiés eux-mêmes pour évaluer ceux qui voudront repartir, ceux qui savent que leur zone d'origine, la situation s'est améliorée et qui vont opter pour le rapatriement. Nous ne manquerons pas de faciliter leur retour. Mais la décision appartient vraiment aux réfugiés d'estimer les conditions dans les zones où ils pensent qu'ils peuvent rentrer. N'oubliez pas aussi que les réfugiés, tous ne sont pas nécessairement de la ville d'Uvira, mais ils viennent d'un peu partout, depuis Kamanyola, jusque dans le Fizi, Baraka et même d'autres un peu plus loin.
Notez que les réfugiés congolais vivent dans des camps au Burundi depuis qu'ils ont fui la guerre de l'FCM-23 dans la partie sud de la province du Sud-Kivu. Au Kasaï, la direction générale de recettes du Kasaï a scellé lundi tous les services de l'entreprise d'électricité du Congo. La DGRCAS l'accuse de n'avoir pas payé ses taxes et impôts liés à l'exploitation de ressources énergétiques pour plusieurs exercices. Qu'en est-il, André Katindé?
La Direction générale des recettes du Kasaï a procédé à la mise sous scellé de toutes les installations de l'électricité du Congo pour non-paiement des taxes et impôts provinciaux. Selon la DGRCAS, l'EDC cumule une dette fiscale importante couvrant la période de 2021 à 2025. D'après la directrice générale de la régie financière, Brigitte Isaka, les taxes concernées portent notamment sur les droits d'implantation des cabines électriques des moyens et basse tension, ainsi que sur la redevance liée à l'exploitation des ressources énergétiques dans la province. Les montants principaux de la dette s'élèvent à 36 milliards 700 millions de francs congolais. À ces chiffres s'ajoutent des pénalités de 15 milliards 728 millions, portant la dette totale à 52 milliards 428 millions de francs congolais. La DGRCAS invite l'EDC à s'acquitter rapidement de ses obligations fiscales. À défaut, elle annonce qu'il ne procède dure des recouvrements forcés sera engagée conformément à la loi. Kananga, André Katende Nalamulume, Radio Kapi.
Le gouvernement provincial du Kasaï Oriental annonce la résiliation du contrat Lyon, l'office de route à l'entreprise JMC Johnny Matala Company, chargée de la réhabilitation de plusieurs axes routiers dans la province. La décision a été rendue publique ce mardi à Mbujimayi lors du compte-rendu du Conseil des ministres provinciaux, lui par maître Pascal Ernest Ilunga, porte-parole du gouvernement provincial. On décore des précisions avec Estan Dalafina.
Selon les informations fournies par l'Office des routes, le contrat concerne notamment le corridor Katende-Lac-Moukamba sur la RN1 où JMC a été mandaté pour exécuter les travaux d'élargissement de la route ainsi que de sa modernisation. L'information autour de la résiliation du contrat a été annoncée par maître Pascal Ernest Ilunga dans le compte rendu du Conseil des ministres provinciaux tenu ce mardi à Mbujimayi.
Le Conseil a été également tenu informé par le ministre de la rupture du contrat contrat de la JMC avec l'Office des routes pour insuffisance des résultats.
Toutefois, le directeur provincial de l'Office des routes, Marcus Okita, a indiqué que trois autres partenaires du gouvernement avaient déjà mené des études sur la réhabilitation de cette route, ouvrant la voie à de nouvelles alternatives.
Un financement de partenaires, le gouvernement a jugé bon qu'on puisse accorder cette partie-là aux partenaires parce qu'ils avaient déjà mené les études sur ces tronçons-là. Et on va voir comment délocaliser JMC pour lui accorder un autre tronçon.
Signalons que cette rupture intervient dans un contexte de critique récurrente. Les habitants du territoire de Kabakamanga ont à plusieurs reprises dénoncé la qualité des travaux exécutés par JMC. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Nous sommes le 25 février, Radio Okapi totalise 24 ans d'existence et elle poursuit sa mission de consolider la paix en République démocratique du Congo, fruit d'un partenariat entre la Fondation Hirondelle et la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. La MONUC, devenue MONUSCO, cette radio a été créée pour accompagner le processus de paix au pays. Elle émet depuis Kinshasa. Radio Okapi diffuse ses programmes en français ainsi que dans les quatre langues nationales, Swahili, Lingala, Kikongo et Chiluba. Pour l'abbé Richard Condé, directeur du programme de la radio-télé diocésaine Nguizani RTDN, basée à Beau Martin du Congo central, Radio Okapi reste 24 ans après sa création, fidèle à sa mission, diffuser une information vérifiée, vraie et fiable. On l'écoute au micro d'Alain Hirung.
Moi, quand je suis les émissions de la radio Okapi par rapport à la consolidation de la paix en RD Congo, c'est une radio qui joue un grand rôle. Créée en 2002, elle a été un symbole de l'unité nationale et de l'unité et l'identité culturelle congolaise. On peut les constater en quatre points ou quatre rôles que cette radio joue en RD Congo. Premièrement, la diffusion d'informations impartiales. La radio joue aussi le rôle de promotion de la paix et de la cohésion sociale. Et là, je m'explique, elle a encouragé les dialogues et la compréhension entre les différentes communautés, contribuant ainsi à la pacification de la région. Et le troisième rôle, donc la sensibilisation aux droits de l'homme. Et le quatrième point pour finir, c'est la formation des journalistes. Elle a servi de modèle pour les journalistes congolais, leur offrant une formation et une expérience précieuse. Et là, moi-même, je peux témoigner avec la formation que j'ai eue à Mwanda sur l'écriture journalistique.
Actualité internationale.
Kizza Besigye, figure de l'opposition ougandaise, a comparu hier devant la haute cour à Kampala sous fond d'inquiétude quant à son état de santé. Accusé de trahison, Besigye est incarcéré depuis environ 15 mois. Selon ses proches, son état de santé se serait fortement dégradé en détention alors que la justice ougandaise refuse toujours sa libération sous caution. Besigye a été enlevé par des hommes armés dans la capitale kényane, Nairobi, en novembre 2024, avant de réapparaître quelques jours plus tard devant un tribunal militaire en Ouganda. Il est emprisonné depuis.
L'invité.
Kinshasa aujourd'hui, mégapole de plus de 15 millions d'habitants, fait face à d'importants défis liés aux déchets, aux inondations ou à la mobilité. Pour y répondre, l'ambassade du Royaume-Uni, à travers le programme dénommé GESIP, appuie un projet et pilote mené en collaboration avec les institutions congolaises, dont l'Agence nationale d'aménagement du territoire, ANAT, la cellule de développement urbain de Kinshasa et la cellule d'infrastructure. Cette initiative mise sur une approche concertée et reproductive à l'échelle nationale. Pour en parler, nous recevons Mme Karine Onimba, directrice générale de l'ANAT. S'entretient avec Justine Moussa Opondé.
Madame Onimba, dans le concret, comment va se matérialiser ce projet?
C'est d'abord une collaboration franche entre les équipes. Du point de vue institutionnel, les équipes ANAT, CDUK et même de la cellule infrastructure travaillent ensemble. Ce sont trois institutions de la RDC qui opèrent dans la ville de Kinshasa, mais qui ont aussi, sauf pour la CDUK, la cellule infra et pour l'ANAT, ont aussi l'opportunité de reproduire ces projets à l'intérieur du pays, dans les autres provinces. Donc c'est une capitalisation. Un accord sur la méthodologie, l'approche, où on teste ensemble. On se met d'accord au départ du projet sur les objectifs, les moyens qu'on va mettre, tant les moyens humains que les techniques, parce que ça fait toute une différence dans la mise en œuvre de projet. Et là, on part ensemble et nous validons à travers des ateliers à mi-parcours qu'est-ce qui se passe, quels sont les points d'attention et nous évoluons ensemble. Ça, c'est vraiment le bénéfice énorme de ce projet. Dans la définition aussi des objectifs, dans les choix de sites expérimentaux, on l'a fait ensemble du point de vue institutionnel. Et pour la RDC, c'est une première que les institutions étatiques travaillent ensemble. Et cela garantit dans la capitalisation, aussi dans la reproduction, un savoir-faire commun et validé par tous.
Qu'on peut déjà se faire une idée sur les actions que le Kinois ou les Congolais peut voir dans les prochains jours sur terrain?
Alors, du point de vue capitalisation, c'est déjà une étude qui est faite de manière participative et inclusive. Parce que d'une part, il y a l'expertise, mais il y a aussi les populations qui participent. Donc, en participant, les populations ont une vision claire de d'où est-ce qu'on part et vers où on est en train d'aller. Au moment final, c'est-à-dire lorsqu'on aura les rapports d'études, ça sera un document concerté, partagé, qui a déjà bénéficié de l'appui des populations qui sont les premiers bénéficiaires. Et donc, ça, c'est déjà un acquis, mais aussi dans la mise en œuvre, on expérimente les différents outils, les différentes méthodologies proposées dans un secteur clé, qui est souvent un secteur dans les trois cas. Hein. On a pris la commune de Kalamu pour la question des gestion de déchets, mais aussi des drainages. Il y a des carrefours qui sont identifiés. Ces carrefours-là servent de pilote, mais aussi on pourrait les dupliquer éventuellement dans d'autres carrefours qui ont des situations similaires.
Vous parlez d'une première phase qui s'achève. Est-ce qu'on peut avoir l'évaluation que vous faites de cette première phase?
Alors, l'évaluation est positive. C'est celle qui a donné lieu à la deuxième phase. Le projet était défini, mais il fallait identifier un secteur pilote, des tronçons pilotes, et identifier des actions à mener. Ces premières analyses ont porté leurs fruits. C'est ce qui a ouvert la voie à la deuxième phase, qui consiste à exécuter justement les recommandations pour arriver, nous l'espérons, à une troisième phase vraiment d'investissement, de réalisation.
Les appuis à la ville ou à la gestion des déchets, il y en a eu, avec l'Union européenne notamment. Quelle est la particularité de ce programme par rapport à tout ce qu'on a déjà vu avec d'autres partenaires qui sont intervenus dans le même secteur?
Vous avez épinglé le projet Union européenne sur la gestion des déchets. L'approche, elle est un peu différente. L'Union européenne a travaillé essentiellement avec la ville de Kinshasa et essentiellement avec une institution publique avec un rôle très important autour de l'institution ville de Kinshasa. Sur le projet JCIP, au-delà des institutions, il y a un gros volet avec la population, avec le souci de sensibiliser et de faire comprendre à la population le rôle qu'il a à jouer pour améliorer la gestion des déchets. L'autre point important, c'est aussi la vision d'une économie circulaire autour de la gestion des déchets. Alors pour nous, la NAT, qui sommes en train de préparer la grande politique nationale des gestion des déchets, c'est une expérience que nous allons capitaliser parce que nous analysons les différents rôles des acteurs. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement apporter comme plus que cette question des gestion de déchets ne repose pas uniquement sur les institutions publiques, mais que la population participe comme vraiment partie prenante et à côté de ça, qu'il y ait un développement économique avec une économie circulaire. Donc ça ouvre la voie à des partenariats PPP, à des possibilités de renvoyer certaines responsabilités aux communes, mais aussi aux partenaires privés qui vont faire partie de cette économie circulaire et soulager, alléger un peu la question de la responsabilité provinciale.
Madame Onyemba, merci.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Madame Karine Onyemba, directrice générale de l'Agence nationale d'aménagement du territoire ANAT. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Alain Rung et Élisée Chikota, mis en onde par Pierre Odiassino avec Babette Pongomassimango à la présentation. Merci de votre attention. Heureux 24e anniversaire à toutes et à tous.